bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs, organisatrices de l'organisation de la journée de m'avoir invité à présenter alors mes différents terrains d'enquête. Donc je précise que je suis sociologue de la culture, du sport, des inégalités. Donc je vais essayer de parler en fait de, alors je dirais, 3 ou 4 objets que j'ai menés, des terrains d'enquête que j'ai menés depuis ma thèse en fait, donc sur 3-4 objets différents. Alors j'ai pas travaillé sur le punk en effet, mais j'ai travaillé sur des objets alors plus ou moins illégitimes. Alors j'ai fait une enquête récente sur un objet qui est un peu plus légitime, qui était les ateliers d'initiation à la musique dans une institution assez légitime, pas très loin d'ici. Alors en fait, mes travaux ils s'inscrivent en effet dans une sociologie de la culture que j'ai abordée à partir de 3 objets, donc sociologie du sport, sociologie du corps et plus récemment sociologie, disons, de la musique. Alors ce que j'ai voulu faire notamment à travers l'étude de ces différents objets, c'est d'étudier la culture à partir de différents segments de l'espace social, différentes classes sociales, disons, différents groupes sociaux. Donc j'ai aussi voulu, à travers ces 3 objets, je vais les préciser, faire varier les échelles de légitimité, donc pas voir en quels effets produisent des variations en termes de légitimité, donc passer de la culture illégitime à la culture légitime, comment ces deux pôles de la culture s'articulent. Et j'ai en effet aussi prêté attention aux catégories sociales, donc notamment les classes populaires, donc je me suis quand même pas mal concentré sur les classes populaires, et j'ai aussi essayé de voir en quoi les effets de génération avaient justement des effets sur les pratiques que j'étudiais. Donc, pour préciser les terrains sur lesquels j'ai travaillé, donc dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur une comparaison entre les États-Unis et la France qui portait sur les sports de combat et de force dans les quartiers populaires, donc auprès des jeunesses populaires de ces deux sociétés. Alors, ce qui m'intéressait justement, c'était de voir en quoi une pratique... Alors, plus ou moins légitime, parce que là, par exemple, là, j'ai travaillé sur la musculation, c'est une pratique qui n'est pas forcément totalement illégitime. Par contre, les sports de combat, c'est quelque chose que... Alors, ils sont en voie de légitimation pour certains, mais alors, j'ai travaillé sur la boxe thaï. La boxe thaï, c'est longtemps resté un sport relativement illégitime et qui est perçu comme un sport très violent, pratiqué par des racailles de banlieue, etc. Donc, j'ai voulu aller voir de plus près ce que c'était que ce sport et qu'est-ce que ça disait sur, en effet, la vie ordinaire des jeunes de banlieue. J'ai aussi travaillé sur la boxe anglaise. Alors pareil, la boxe anglaise, en fait, aux États-Unis, c'est un sport qui est... je pense que ça évolue, ça circule entre deux pôles de légitimité et légitimité. C'est un sport qui peut être très reconnu dans la littérature, par les artistes. Il y a de la boxe à la télé. Mais en même temps, quand c'est pratiqué par des populations marginales, il y a toujours un procès en illégitimité, quoi. C'est des sports de voyous, c'est des sports violents, on devient punch drunk, comme on dit, enfin, un peu abruti par l'accumulation de coups. Pour présenter mes objets aujourd'hui, j'essaie de voir ce qu'il y avait de transversal à tous ces terrains. Et alors, notamment mes enquêtes sur les sports de combat aux États-Unis et en France, quelque chose qui était très, très présent sur ces deux terrains, c'était le rapport à la déviance, en fait. Donc j'ai essayé de voir en fait, comment se situaient les différents acteurs par rapport à la déviance. Et en fait, une partie de la socialisation autour de la boxe, autour des sports de combat plus généralement, et autour de la musculation dans les quartiers populaires auprès de ces jeunes, c'est en partie... pour les faire mettre à distance la déviance, la délinquance de rue, faire des conneries, comme ils disent, au sein du quartier, etc. Alors, pour aborder ces différents terrains, alors d'un point de vue un peu plus méthodologique, en fait, j'ai eu deux efforts à fournir en tant que sociologue. Alors, moi-même, je suis issu de ces quartiers populaires, j'ai pratiqué la boxe thaï. Je suis aussi pratiquant, donc il y a un double statut peut-être sur lequel je vais revenir plus tard, mais en tant que sociologue, j'ai dû d'une part convaincre Soit mon directeur de thèse, alors moins le directeur de thèse que peut-être d'autres sociologues et d'autres universitaires, que c'était, la Boxtel était un objet légitime qui avait lieu de faire une enquête là-dessus. J'ai eu par exemple du mal à trouver des directeurs de thèse au début. D'un autre côté, il faut aussi convaincre, ça c'est un paradoxe, il me semble, les enquêtés eux-mêmes, donc ceux qu'on appelle les enquêtés, que leur objet est légitime et digne d'être enquêté par un sociologue. Donc j'avais souvent des questions, les enquêtés, les boxeurs, par exemple, me demandaient mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, je ne sais pas si c'est intéressant, j'ai rien à dire. Alors ça, je pense que ça relève à la fois de l'objet en lui-même. La boxe thaï, c'est un sport violent. C'est pas si un sociologue ou même si des universitaires ont un intérêt à écouter ce qu'on dit. Et en même temps, je pense que du fait que ça soit des populations marginales, évidemment, les jeunes de cité, quoi, par exemple, ont un sentiment d'illégitimité par rapport à soit à leurs paroles ou à ce qu'ils peuvent faire. Et dans un troisième temps. Je pense que quand on étudie des pratiques, alors qu'elles soient illégitimes ou pas d'ailleurs, mais plus les pratiques sont illégitimes, il me semble que plus les enquêtés ont du mal à dire pourquoi ils font ces pratiques ou à les décrire. En fait, ils les font. Ils n'ont pas la même posture réflexive qu'un sociologue qui arrive avec ses questions. Par exemple, pour essayer de pas tomber dans ce piège, imposer du scolaire, du réflexif par excès aux enquêtés. Bon, alors ce que j'ai privilégié moi, c'est les observations. Donc c'est les méthodes classiques, ethnographiques. Donc j'ai essayé d'observer de manière répétée les pratiques des boxeurs, de gens qui faisaient la musculation dans ces quartiers populaires. Alors j'ai aussi fait des entretiens répétés et approfondis. Alors j'ai plutôt privilégié les entretiens informels en situation. Donc quand on s'entraîne, c'est compliqué, mais il y a toujours moyen de mener un échange comme ça, informel. J'ai privilégié les entretiens avant ou après les entraînements. Donc là, c'est assez pratique d'aller voir un boxeur, par exemple, et d'aller lui dire, tout à l'heure, t'as fait ci, t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, tu peux m'expliquer, etc. Ou alors même, sans avoir une posture si réflexive, discuter avec les boxeurs. Donc ça, je pense, c'est un moyen assez pratique de contourner un effet d'imposition qui est identifié dans les livres des méthodologies, d'imposition classique de problématiques, et de réflexivité excessive. Je pense que là, il y a un risque de surinterprétation sociologique en imposant aux enquêtés des problématiques auxquelles ils n'avaient pas réfléchi avant. Donc voilà, moi, ma stratégie d'enquête, ça a été ça. Ça a été de, en effet, participer aux activités autant que je pouvais. Bon, là, je pouvais parce que j'avais fait moi-même de la boxe thaï, donc c'était assez commode. Et en même temps, d'essayer d'observer et donc, de tenir un carnet de terrain de manière assez rigoureuse, de noter tout ce que j'observais et de mener des entretiens à la fois informels et formels. Aux États-Unis, j'ai procédé de la même manière. Aux États-Unis, j'ai rencontré un obstacle méthodologique qui est prévisible, donc il y a la barrière. Alors de la langue, je parle anglais, mais comme beaucoup de gens maintenant, mais vu que j'enquêtais sur des quartiers très ségrégés, marginalisés, où la majorité des habitants est afro-américain, afro-américaine, il faisait usage de l'argot des ghettos noirs. Donc il a fallu que, j'avais un peu la connaissance de certaines expressions de cet argot, par le rap notamment. Donc là, on en revient aussi encore à la musique, une musique un peu qui est légitimée maintenant, mais qui n'est peut-être pas tout à fait légitime. Donc j'avais des notions d'argot, donc je pouvais me débrouiller, mais il a fallu en effet faire un apprentissage de cet argot. Il y avait à peu près les mêmes obstacles. C'est des gens qui sont peut-être même plus illégitimes, enfin qui se sentent peut-être plus illégitimes que les jeunes de cité en France, parce que la ségrégation raciale, urbaine est beaucoup plus poussée aux États-Unis. Alors en même temps, il y avait le fait d'être étranger à cette société, qui toujours un statut un peu particulier, parce que ça suscite à la fois une curiosité. Donc ma curiosité suscitait la curiosité, mais qu'est-ce que c'est que cet étranger qui vient s'intéresser à nous ? C'est bizarre. Et en même temps, ça facilite les interactions au terme de l'enquête et au cours de l'enquête. Donc j'ai réussi, je crois, et j'espère, à contourner ces obstacles méthodologiques. Parce que j'avais en effet une certaine relative, bien sûr, maîtrise de la langue et de l'argot, et que j'étais dans une posture aussi participative. Donc ça, c'était les mêmes avantages en termes d'enquête, c'est d'observer, de noter tout ce qu'on observe et de faire des entretiens, si possible, informels. Je ne vais pas dire grand chose d'extraordinaire en termes de méthodologie, mais mes méthodes sur mes différents terrains illégitimes, c'était vraiment une approche. Je crois que c'est la meilleure des approches, il me semble, pour enquêter sur ces pratiques et ces terrains, c'était d'utiliser des méthodes dites qualitatives, pas pour disqualifier les méthodes quantitatives, bien évidemment, on en a besoin, c'est essentiel, mais je pense que pour aborder ces pratiques de manière fine, le meilleur moyen, précisément, c'est d'aller voir sur le terrain et d'observer et puis de parler avec les gens. Alors peut-être un mot sur une enquête que j'ai menée plus récemment sur les ateliers d'initiation à la musique. Alors c'est sur un terrain totalement légitime, il me semble. J'en discutais juste avant de commencer justement cette présentation, c'est que l'avantage de travailler sur des objets qui font varier les échelles de légitimité, justement, c'est de pouvoir utiliser à la fois les outils méthodologiques et les outils conceptuels qu'on a employés sur des terrains illégitimes, par exemple, si c'est dans cet ordre chronologique, pour des terrains légitimes et vice-versa. Bon, moi, je suis passé de terrain illégitime à un terrain plus légitime récemment, et là, j'enquête de nouveau sur les quartiers populaires. Donc, j'alterne comme ça les terrains et je vois les effets en fait en termes de gain de connaissance que ça produit et de construction de l'objet. Alors en fait, je pense que pour être un peu plus précis, c'est que le fait d'avoir enquêté sur un ensemble de pratiques légitimes et légitimes me donne une meilleure vision de ce que c'est que la culture, puisque je m'intéresse à la culture, et d'avoir, comment dire, une vision plus... plus fine du rapport inégal ou différencié à la culture. Je vais peut-être aussi évoquer le terrain sur lequel je travaille en ce moment. Je suis passé en effet d'une attention particulière au corps, à la sociologie du corps, à travers les différentes pratiques que j'ai étudiées, boxe thaï, boxe anglaise, musculation. Donc je suis passé après aux ateliers d'initiation à la musique. Et maintenant, je travaille en fait sur ce que j'ai appelé les intellectuels de quartier. Alors, cet objet, en fait, m'est apparu en filigrane au cours de ma thèse. Donc, j'enquêtais sur une salle de boxe thaï et j'ai fait la connaissance d'un boxeur qui était à la fois boxeur, qui travaillait dans l'univers culturel, qui avait monté un fanzine de cultures dites urbaines, surtout autour du hip-hop, notamment, et du rap. Et en fait, il avait en projet de décrire un livre. Et ce type, en fait, avait arrêté l'école en BEP. Donc je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose d'assez remarquable, quoi. Il n'a pas beaucoup... il n'a pas acquis suffisamment, du point de vue légitime, justement, de savoir par l'école, mais il parvient quand même à écrire un livre. Et c'est parti de là, en fait. Donc je me suis dit, il y a quelque chose... dans les quartiers populaires qui relèvent de la culture au sens très large. Et contrairement à ce qu'on peut croire souvent, il y a en fait un certain nombre d'acteurs dans les quartiers populaires qui sont en fait dotés de savoir, d'un ensemble de savoirs qu'on ne leur reconnaît pas forcément. Donc en effet, il y a des vagues de massification scolaire qui font que beaucoup de jeunes de quartier ont des parcours scolaires remarquables, etc. Ils sont reconnus pour ça, ils font des belles études, ils ont des emplois, donc ils sortent du quartier, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir quels sont ces jeunes et moins jeunes, comme ce, je vais l'appeler Djamel, comme ce Djamel qui n'a pas été très longtemps à l'école, mais qui arrive finalement à écrire un bouquin avec les moyens qu'il a. Donc voilà, c'est mon point de départ, de mon interrogation de départ par rapport à cet objet. Et du coup, j'ai développé un projet là-dessus. Donc j'essaye d'enquêter en fait sur les habitants de quartiers populaires qui, par différents moyens, acquièrent des savoirs hybrides. Bon, je les nomme comme ça, à la fois par l'école, quand ils sont allés un peu à l'école, et de manière autodidacte, en allant grappiller à droite, à gauche, un ensemble de savoirs, alors plus ou moins illégitimes, justement. Alors, je ne sais pas, la connaissance du quartier, les cultures dites urbaines, le rap, je ne sais pas, bon, plein de choses. Alors, ce que j'ai remarqué, évidemment, c'est qu'il y a un emprunt, on pourrait dire, ou un bricolage culturel qui tire son inspiration ou ses références dans ce qu'on pourrait appeler un modèle culturel américain. Bon, c'est un peu réifiant de dire ça, mais Malcolm X, le hip-hop américain, le rap américain. Donc il y a en effet un emprunt, à la fois une importation, mais je ne sais pas si c'est une importation stricte, c'est plutôt des formes d'acculturation, mais après des reconstructions. Donc on emprunte, on écoute du rap, on lit la biographie de Malcolm X, On a le poster de... Alors là, c'est pas aux États-Unis, c'est Frantz Fanon dans sa chambre, ça, je l'ai vu. Mais par ailleurs, on lit du Simone de Beauvoir, du Victor Hugo, du Maupassant, etc. Donc je pense qu'il y a une construction hybride de la culture au sein de ces intellectuels dits de quartier populaire qui, à mon avis, leur donne à la fois comment dire, un stock de connaissances particulier et une existence dans leur quartier particulière. Donc ce qu'ils font avec ces savoirs, ces intellectuels de quartier, alors pas tous, mais certains, ils mènent des actions d'ordre culturel dans les quartiers, donc ils sont à la fois reconnus par différents publics locaux, donc les jeunes et moins jeunes, et ils ont à cœur, alors souvent ils restent dans le quartier parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens économiques d'en partir, et en même temps ils mènent des actions de type culturel, alors je ne sais pas, des ateliers d'écriture, alors il y en a un par exemple qui organise des dictées géantes, donc il fait venir comment dire, des publics intergénérationnels, donc des jeunes et moins jeunes, et puis ils font une dictée sur un texte de la littérature classique. Donc c'est là à la fois des méthodes un peu nouvelles pour, je sais pas, alors, acculturer, c'est un peu fort, mais employer le terme quand même, acculturer les, ou reproduire peut-être des éléments de la culture légitime et dans un territoire illégitime, puisque c'est au plein cœur d'une cité, par exemple. Donc c'est toutes ces... ambivalence, contradiction, hybridation, qui, à mon avis, donne tout l'intérêt à ce type d'objet et à ce type de personne. Quoi. Alors, j'ai l'intention aussi de comparer ces têtes de quartier d'un point de vue franco-américain, en essayant d'aller voir ce qui se passe du côté des États-Unis. Alors, j'ai plusieurs hypothèses. En effet, c'est que les têtes de quartier aux États-Unis, les intellectuels de quartier, rencontrent beaucoup plus de difficultés à sortir de l'espace dans lequel ils inscrivent leurs activités de transmission culturelle, etc. Alors, donc ça tient essentiellement aux formes de ségrégation raciale et urbaine. Ils sont cantonnés à leur quartier de manière beaucoup plus forte, il me semble, que les intellectuels de quartier de banlieue populaire. Je pense que l'intérêt, par exemple, de cette comparaison sur deux terrains aux constructions historiques assez différentes, quand même, les États-Unis et la France, c'est pas pareil. Et en même temps, il y a une longue histoire aux États-Unis de gestion, si je peux dire ça comme ça, de minorités raciales et des quartiers ségrégés, que ce soit dans un sens positif ou négatif. Et je pense qu'il y a un intérêt à comprendre ce qui s'y est joué historiquement et ce qui s'y fait actuellement, et de voir ce qu'on peut en tirer, à la fois d'un point de vue d'ailleurs de la sociologie, puis même de l'action publique ou d'autres choses, à comparer ces types de quartiers et ce qui est fait à leur endroit. Donc à mon avis, il y a en effet un intérêt à travailler sur des objets ou le même objet sur des terrains situés dans des espaces nationaux différents mais qui méritent comparaison, je pense. Donc, bon, par exemple, là, les têtes de quartier, les intellectuels de quartier, c'est souvent des jeunes adultes issus des minorités raciales en France qui habitent dans des quartiers populaires. Et je pense qu'il y a un intérêt à voir ce qui s'est fait aux États-Unis, parce que, alors pas parce qu'ils sont en avance ou pas parce qu'ils... il serait meilleur que la France, mais parce que voilà, il y a une histoire en fait, en tout cas. Donc remettre de l'historicité dans les processus sociaux, bon, déjà ça c'est à mon avis intéressant en soi, mais replacer voilà dans l'histoire longue de lutte des Noirs américains, ces intellectuels de quartier, je pense qu'il y a un intérêt à le faire et voir voilà les différences et les points communs avec le cas français. Je peux peut-être conclure en disant que, à mon avis, la meilleure des méthodes pour saisir des pratiques illégitimes sur des terrains marginaux, il me semble que c'est la méthode ethnographique qui combine à la fois une observation poussée et des entretiens alors plutôt informels, répétés. C'est la meilleure des manières de contourner un ensemble d'obstacles épistémologiques, donc d'imposition de problématiques et d'une certaine posture réflexive, et de saisir au plus près les pratiques telles qu'elles sont en effet... telle qu'elle se déroule dans l'univers des enquêtés.
Merci Hakim, cet exposé voilà, passionnant sur tes terrains et sur cette première question que tu as évoquée mais qui nous concerne tous, c'est-à-dire comment convaincre à un moment donné son directeur de recherche ou une institution voilà, que le terrain sur lequel on va s'engager est finalement, sinon évidemment légitime, mais enfin, en tout cas, il y a une légitimité à construire. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions aussi sur cette question de la construction du savoir ailleurs, les intellectuels de quartier, Manu qui travaille d'une certaine manière sur des problématiques similaires. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est ce que tu évoquais dans comment on s'approprie une culture venue d'ailleurs, on en fait autre chose. Alors je ne sais pas si ça relève éventuellement de ce qu'on appelle les transferts culturels, c'est une forme de traduction en fait. Hein, et voilà, donc c'est pas une question, c'est une remarque, mais sur laquelle on peut peut-être démarrer.
Est-ce que les travaux de Loïc Vacan, notamment sur la boxe, qui était un objet légitime, t'ont inspiré dans ta démarche? Et puis, c'est une question qu'on se posait conjointement avec Christophe.
Oui, alors en effet, Loïc Vacan, bon, bah, c'est l'un des premiers, pas le premier, mais je crois, il y en a eu d'autres avant lui, mais je pense que c'est l'un des premiers à avoir étudié la boxe dans un ghetto noir américain, en effet, en employant une méthode en immersion totale. Donc en effet, c'est un ouvrage de référence. Où je me différencie de lui, peut-être, c'est peut-être dans la restitution de l'enquête, en effet, où, alors moi, si vous lisez mon livre, j'écris un livre là-dessus, je n'apparais quasiment pas ou pas du tout. Et c'était un peu un choix, quand même. J'ai préféré privilégier la restitution de ce que les enquêtés, ceux que j'ai rencontrés, vivaient dans l'expérience quotidienne d'une salle de boxe. C'est des choix, hein, je veux dire, ça se défend, quoi. Donc, après, il y a d'autres choses qui me différencient de Vacan, mais c'est en tout cas une œuvre, en effet, référence, quoi.
Est-ce que tu étais dans l'observation participante, c'est-à-dire, est-ce que tu pratiquais en même temps que c'était ça
oui.
aussi
Oui, tout à fait. Oui, en fait, j'ai donc participé aux entraînements. Alors ça, j'ai peut-être pas insisté, ma présentation était un peu brouillonne, je crois, mais ce que j'ai fait, en fait, c'est participer aux entraînements systématiquement, de manière hebdomadaire, enfin, plus hebdomadaire. Alors, il y a une difficulté méthodologique, précisément, c'est, il y en a plein dans la salle, je pense qu'ils connaissent ça, c'est quand on est sociologue et qu'on participe à la pratique qu'on observe, qu'on étudie plutôt, moi je sais qu'il y a par moments, en plus j'étais boxeur, donc je prenais un plaisir immense à m'entraîner, et par moments, très souvent, j'oubliais que j'étais là pour étudier le lieu et la pratique que j'observais. Donc il y a des moments où on s'oublie, quoi, on est à fond dedans, comme on dit. Il y a une discipline à développer pour s'efforcer de se rappeler qu'on est là pour enquêter et pas seulement pour s'entraîner. Donc c'est un peu schizophrénique, hein, mais bon, ça c'est vraiment expliqué dans les manuels des méthodologies, quoi, qu'il faut vraiment faire un effort constant pour en effet se retirer à un moment donné, observer. Et c'est pas tout le temps facile. Voilà.
Bien. J'ai trois petites questions. Je vais faire deux. Nous deux, on est historiens du sport, donc c'est pour ça que ça nous parle. Tu dis que la boxe thaï, enfin, tu la juges comme illégitime. Alors déjà, j'aimerais savoir quels sont les critères que tu utilises pour dire que c'est une pratique illégitime, alors que c'est une pratique qui a une fédération, des clubs, des compétitions, donc qui semble égale à d'autres types de pratiques, puisqu'elle est codifiée, elle est réglementée. Donc ça, c'est ma première question. Et donc, je vais faire la deuxième. Tu parlais des liens entre les générations, puisque nous, quand on étudie la question du punk, donc il y a les liens entre les générations, et on voit que souvent, entre les générations, il n'y a pas de lien forcément, notamment entre première et troisième, Et généralement, on n'est pas sur les mêmes logiques, les mêmes définitions du punk, etc. Donc, est-ce qu'au sein de la salle, justement, il y a ces liens entre des boxeurs plus âgés qui transmettent, peut-être un certain nombre de discours ou des valeurs qu'eux ont appris? Est-ce que les jeunes les écoutent ou leur disent que c'est des vieux cons? Est-ce qu'il y a vraiment ce lien entre les générations? Est-ce qu'ils se transmettent des choses au sein de cet espace sportif qui serait peut-être pas le cas en dehors de l'espace sportif?
Je me permets, parce qu'en fait ça rejoint ta première question sur le sport, la boxe thaï comme sport illégitime. Tu as dit à plusieurs reprises le sentiment d'illégitimité des boxeurs. J'ai un peu la même question, c'est-à-dire comment tu le mesures, comment tu l'objectives, et est-ce que c'est un sentiment d'illégitimité uniforme et homogène, ou alors est-ce qu'il se combine avec le sentiment de légitimité dans d'autres espaces?
Merci beaucoup pour vos questions. Alors, en effet, la boxe thaï, j'ai peut-être été trop vite en disant que c'est illégitime, en grande déclaration comme ça, mais alors, pour ajouter relativement illégitime, et en effet, même alors, illégitime selon quel cadre ou selon quel public, vis-à-vis de quel public. En effet, elle est illégitime. Elle est légitime, en effet, parce qu'elle a une fédération, elle est de plus en plus... Alors, c'est une pratique qui circule au niveau mondial. De plus en plus, par exemple, de touristes occidentaux, vont en Thaïlande pour apprendre la boxe thaï, justement. Donc, c'est devenu une pratique mondialisée, globalisée. Elle est illégitime au regard d'un certain nombre d'institutions, notamment locales, par exemple... vis-à-vis de certains même publics locaux, par exemple les parents qui, leurs enfants disent voilà j'ai envie de faire la boxe thaï, alors quasiment tous les boxeurs que j'ai interviewés en fait me disaient que leurs parents refusaient en fait qu'ils fassent ou alors avaient très peur qu'ils fassent de la boxe thaï. Donc ça reste une pratique qui est perçue notamment par les populations locales comme notamment les parents, les adultes, comme une pratique violente. Elle est toujours suspecte dans la commune que j'ai enquêtée d'encadrer en fait les jeunes les plus durs ou les plus déviants du quartier. Donc il y a toujours ce procès en illégitimité de la part de un certain nombre de responsables ou d'élus locaux. Donc il y a toujours des discours que j'ai recueillis de boxeurs et de responsables de la salle. La salle est en concurrence avec d'autres salles de sport, notamment, par exemple, dans cette commune, elle était en concurrence avec la salle de judo. Et ils se voyaient comme un peu des rivaux. Et puis, alors, les pratiquants de judo voient les boxeurs un peu de manière... ils se mettent en position de supériorité en disant que la boxe thaï, c'est un sport un peu de brut. Eux, c'est un peu les voyous du quartier. Nous, on est un sport un peu plus noble. On véhicule des valeurs nobles. Alors même... pour aller même plus loin, là, du coup, c'est un point de vue mythologique, c'est intéressant. Le responsable de la salle de judo, en fait, je l'ai croisé, je le connaissais aussi un peu par ailleurs, il me disait, t'as qu'à venir aussi voir, moi, ça m'intéressait déjà moins, mais il a essayé de me convaincre de venir enquêter sur la salle de judo en disant, ouais, tu vas voir, c'est super intéressant, c'est peut-être mieux que la boxe thaï, etc. Donc, en effet, c'est pas une pratique illégitime, de manière homogène, c'est selon différents groupes.
Est-ce que dans la salle de boxe thaï, il y a la pratique du MMA ?
Oui, c'est alors très bonne question.
Qui est là plutôt
oui.
illégitime.
Oui, en effet. Alors, c'est pareil. En fait, on pourrait presque retracer en fait l'histoire. Mais il y a une carrière des pratiques finalement. On passe d'un statut, puis ça aussi, je pense, un statut un peu plus légitime, un statut un peu moins légitime. Bon, la boxe thaï, elle était interdite début des années 80, dans le 13e. Le maire, c'était tout bon, je crois. Il interdisait les galas. On disait à l'époque les galas de boxe thaï. C'était vraiment perçu comme un repère de racailles de banlieue, etc. Bon, maintenant, en effet, il y a de plus en plus de... Et alors, pour répondre à votre question, en effet, le MMA, c'est pareil, c'est une pratique qui est longtemps restée, à mon avis, vraiment illégitime. On disait, c'est la bagarre, tous les coups sont permis, et c'est de plus en plus admis dans... Il y a des combats qui sont organisés, c'est retransmis à la télé, aux États-Unis, ça cartonne. Et alors, en effet, de plus en plus de boxeurs, de pratiquants de boxe thaï, pratique aussi par ailleurs le MMA parce que du coup on devient un combattant complet quoi. On est à la fois habilité à combattre à mi-distance et on peut saisir l'adversaire, le mettre au sol, lui faire des clés, etc. Donc sur le sentiment d'illégitimité des boxeurs, il tient notamment au fait que leur pratique en effet elle est relativement illégitime comme j'essaie de l'expliquer juste avant, et en même temps parce que c'est des jeunes de cité. Donc c'est pareil, c'est par rapport à quoi le sentiment d'illégitimité, c'est à la fois par rapport à la société dominante, quoi, à différentes images, stéréotypes, représentations essentialisées qu'on renvoie d'eux. Donc ça reste finalement des jeunes de quartier. Donc ça, je n'invente pas. Hein, ça revient dans les... C'est des choses que tout le monde connaît, qu'on sait, mais ça revient dans les entretiens, par exemple. Et en même temps, pour le dire de manière un peu plus nuancée, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, même si ils me percevaient comme... un mec de quartier, un arabe, en même temps il y en avait plein qui savaient que j'avais fait de la boxe, etc. Le sentiment d'illégitimité était tout relatif vis-à-vis de moi, mais quand même j'arrivais avec la présentation de mon projet très vague en disant je vais pour la fac, je fais un projet sur la boxe thaï, j'aimerais parler avec toi, tout ça. Donc j'essayais de réduire la distance, parce qu'il y en avait une objective, mais il y avait toujours ce sentiment pourquoi on s'intéresse à moi, c'est un peu. Je vois pas trop l'intérêt de parler de. Une pratique que justement je fais quoi, je vais à la boxe et pour faire de la boxe, pas pour en parler. Donc le sentiment d'illégitimité, je pense qu'il tient au fait que la plupart des boxeurs, mais y compris aux États-Unis d'ailleurs, peut-être encore plus fort aux États-Unis, appartenaient aux minorités ethno-raciales, disons-le comme ça, et habitaient dans des quartiers hyper ségrégés. Alors, la commune du Val-à-Terre, mais celle où, ou même les deux d'ailleurs, les deux. Alors, c'est pas une commune aux États-Unis, c'est un quartier. Les deux quartiers où j'ai enquêté en France et aux États-Unis, c'est vraiment des quartiers qui font régulièrement la une des journaux pour souvent des mauvaises raisons, des faits divers, etc. Donc, ils sont vraiment perçus comme des lieux à la fois éloignés du centre de la culture légitime, on va dire. Et comment dire donc voilà, ils sont les habitants. Je pense qu'ils ont vraiment ce fort sentiment d'illégitimité qui tient à leurs conditions de vie et à l'image que la société leur renvoie de manière régulière, quoi. Alors sur la génération, c'est une question très intéressante. En effet, alors là, c'est quelque chose qui apparaît dans l'enquête. C'est alors la boxe thaï, c'est un sport, voilà, un peu exigeant physiquement, mais on retrouve en effet des boxeurs qui ont la quarantaine passée et qui incarnent un peu l'histoire du club. Pareil aux États-Unis, les boxeurs, ils passent souvent entraîneurs et donc qui sont en effet en charge de transmettre. Alors ils appellent ça en effet les valeurs du club. La valeur qui était centrale dans les deux terrains aux États-Unis et en France, c'est le respect. Donc il y a vraiment une, on va pas aller jusqu'au terme obsession, mais il y a une concentration très forte sur le respect. Il faut respecter les autres. Alors à la fois son adversaire proche, l'adversaire dans le cadre d'un combat, mais aussi ceux avec qui on interagit autour, alors dans la salle et autour de la salle, les parents d'enfants qu'on croise, les autres pratiquants, le gardien du gymnase, et puis donc plus largement les habitants, etc., etc. Donc ça fait des cercles concentriques comme ça. Donc il y a une sorte d'injonction au respect qui est assez fort. Mais en effet, je pense qu'il y a peut-être une... Alors, le fait que les anciennes générations de boxeurs aient à cœur de transmettre des valeurs, une certaine définition ou vision de la pratique de la boxe thaï est reçue de manière différenciée par les jeunes boxeurs. Alors, il y en a qui adhèrent totalement à oui, la boxe thaï, il faut être respectueux, c'est un sport à la fois beau, technique, c'est pas un sport violent. Et puis d'autres qui sont là pour apprendre à se défendre. Alors ils arrivent souvent pour montrer qu'ils sont les plus forts. C'est une fraction seulement, cela, des jeunes boxeurs, mais en fait, ils sont très vite recadrés. Les entraîneurs ont tout un ensemble de stratégies pour leur montrer qu'ils ne sont pas du tout les plus forts et qu'ici, ce n'est pas la rue. Donc ça, c'est un discours qui revient souvent. Et donc, ils les mettent face à un boxeur meilleur qu'eux, pas forcément le meilleur de la salle d'ailleurs, qui donne une leçon de boxe à ces jeunes un peu vigoureux. Et puis voilà, ça rentre. Ça, alors, soit en effet, ils rentrent dans le cadre, ou soit ils ne reviennent plus, quoi. Donc, voilà. Donc en effet, il y a un effort de transmission que j'ai pu observer dans toutes les salles de boxe, assez important. Après, il faudra retracer l'histoire, en effet, de ce qui est en effet transmis ou pas. J'ai essayé un peu de le faire, mais il y a une transmission et une conscience de ce que c'est que transmettre la boxe thaï et ses valeurs, ou la boxe anglaise, ou très forte.
Je suis hyper intéressé par cette transmission de connaissances en marge, et du coup j'ai des questions très précises. Alors peut-être que dans tes entretiens tu les as pas posées, mais du coup je veux quand même te les poser, ou au moins si tu as peut-être une idée là-dessus. C'est déjà la première, c'est est-ce que tu penses que les effets de socialisation, donc du coup grâce à ces normes et valeurs, sont vraiment à la base de cette envie de transmettre et de comment dire, ou d'apprendre, de cette volonté d'apprendre. Ma deuxième question, c'était par rapport aux intellos en fait de quartier, que ton concept je trouve vraiment chouette, c'est de savoir déjà premièrement, est-ce que c'est des personnes qui est-ce qu'il y a un lien avec la famille, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un capital culturel qui est transmis de par la famille qui pourrait leur donner déjà un premier accès, ou peut-être une conscience politique peut-être aussi d'une certaine façon, parce que cette envie de s'autodéterminer, je pense, à travers la connaissance, c'est quand même quelque chose qui est fort. Et ma troisième question, désolé, c'est un peu bourrin, ces personnes-là, quand ils construisent des connaissances-là, est-ce qu'ils les réinvestissent, est-ce qu'ils les valorisent après, peut-être pour professionnellement? Et s'ils les réinvestissent, de quelle manière? Est-ce qu'ils apportent peut-être une éthique dedans par rapport à d'autres professionnels qui n'ont pas cette vision-là d'autodéterminisme par la connaissance? Est-ce que t'as pu voir ça?
Merci beaucoup pour tes questions. Alors, juste, je suis pas sûr d'avoir bien compris la première. Je sais pas si tu peux...
Je me suis rendu compte que dans le punk, le do it, enfin, il y a le do it yourself, vraiment le truc de vas-y, fais les choses. Et pour apprendre à faire les choses, je me suis rendu compte que le cadre didactique, comme on peut le voir à l'école, le fait qu'il y ait vraiment ces postures de domination enfant-élève, c'était pas trop le cas. D'accord. Et je me suis posé la question, comment ça se fait que les gens soient motivés autant à apprendre, d'accord, à organiser des concerts, etc. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment des effets de socialisation qui faisaient que, très très fort, qui faisaient que les gens avaient envie d'intégrer une communauté, envie d'apprendre et de participer à ça, quoi.
D'accord, oui. Alors en effet, oui, là, je comprends mieux, enfin je crois. Alors j'ai particulièrement, en effet, porter mon attention sur ce qu'on appelle la socialisation, en effet, essayer de voir comment circulaient les savoirs que j'appelais pugilistiques, bon, pour les nommer, mais c'est ce qui m'intéressait. Je me suis interrogé, je me suis dit comment ça se fait que voilà, les jeunes de cité, de quartier populaire, mettent autant d'énergie et de volonté à apprendre la boxe, en effet. Alors, c'était intéressant de voir les contrastes avec l'école. Donc en entretien, j'ai essayé de voir précisément pourquoi. Alors ils opposaient eux-mêmes, les boxeurs, souvent l'école à la salle de boxe. Donc c'était une opposition qui revenait constamment, chez les plus jeunes notamment. Et alors il y a une circulation, c'est intéressant, d'une sorte de disposition à apprendre. Donc je pense qu'elle est déjà acquise à l'école, au sein de la famille. Donc ça sera peut-être la deuxième question. Mais au sein de la famille, on est presque dressé à apprendre, hein, en effet. Donc les boxeurs arrivent en ayant l'intention d'apprendre la boxe parce que c'est une pratique, la boxe thaï notamment, c'est une pratique qui est hyper valorisée dans le groupe de pairs. Donc ils veulent apprendre la boxe thaï parce que ça fait bien, c'est un sport qu'ils aiment, ça donne des compétences agonistiques, de combat, etc. Au niveau réputationnel, c'est très bien, ils seront identifiés comme des boxeurs, donc on va moins les emmerder, on va les respecter, etc. Donc je pense qu'il y a tous les éléments que je viens d'énoncer, je pense que ça participe du fait qu'ils mettent de la bonne volonté à apprendre la boxe thaï. En fait, alors, ça j'ai essayé de l'écrire dans un article, je pense que le fait que ceux qui enseignent la boxe, donc les entraîneurs de boxe, soient eux-mêmes dans les salles dans lesquelles j'ai enquêté, en tout cas d'anciens boxeurs, très bons boxeurs souvent, très respectés, et en même temps des habitants du quartier, donc connaissent les mêmes choses, ils ont le même langage, ils ont un certain nombre de propriétés sociales en commun. Je pense que ça réduit vraiment fortement la distance sociale par rapport à des profs. Alors il y a des profs qui ont des caractéristiques sociales assez proches aussi, mais bon, bah, généralement c'est plutôt éloigné quand même, des jeunes, des quartiers populaires en tout cas. Donc le fait de réduire la distance sociale, je pense que ça augmente, comment dire, la probabilité que les savoirs pugilistiques soient bien reçus par les boxeurs. Alors il y a plein d'éléments, là j'ai peut-être pas le temps d'y revenir, mais qui font que la salle de boxe, pardon, est presque perçue comme une salle de classe, en fait, c'est assez marrant. Et les entraîneurs ont un discours parfois qui est très proche de celui d'un prof, quoi. Mais bon, en tout cas, les boxeurs, ils font vraiment la différence, et en même temps, ils disent que grâce à la boxe, ils deviennent meilleurs à l'école, ils font moins de conneries. Y en a un qui me dit, c'est en partie grâce à la boxe qu'il a obtenu son bac avec mention. Donc c'est lui qui le dit, après c'est dur à vérifier, mais la première personne qu'il est allé voir, c'est pas ses parents, quand il a eu la nouvelle du bac avec mention, c'est l'entraîneur de boxe. Il m'a dit je suis allé le voir et j'étais content, et voilà, etc. Donc il y a à la fois une valorisation en effet de ce que c'est que la boxe, la belle boxe, la boxe intelligente, et en même temps les entraîneurs, ils ont à cœur de faire du social, comme ils disent, de valoriser l'école et d'inciter les boxeurs à non seulement pas faire de conneries, mais à être bons à l'école. Donc je pense qu'il y a des discours paradoxaux où ils mettent à distance une certaine culture légitime, en disant certaines choses, et en même temps ils valorisent le fait que la boxe soit pas une pratique de brute, et aussi mobilise l'intelligence des boxeurs. Je suis un peu long dans mes réponses, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors en effet, ta question était vraiment intéressante sur les intellectuels de quartier. Le rôle de la famille est hyper important, en effet, donc c'est encore une fois de la socialisation. Je pense, alors ça c'est en partie des hypothèses, et comme j'ai commencé mon enquête, en partie des données que j'ai pu recueillir, c'est que une grande partie, alors certains sont allés plus loin à l'école que d'autres, et certains ne sont pas allés très loin à l'école, et en effet, ce qui se transmet par la famille, c'est souvent des enfants d'origine immigrée, comme on dit, les parents ne sont pas allés forcément à l'école. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a, par exemple, ça revient pas mal, une forme d'oralité qui est transmise, alors notamment par la mère, souvent la mère qui raconte des histoires qu'elle a elle-même héritées de sa mère, sa grand-mère, etc. Donc je pense qu'il y a comme ça des compétences par rapport à l'oralité qui sont transmises, et puis des histoires en tant que telles, hein, qui racontent des choses sur la vie du pays, l'histoire du pays, alors des fois de manière un peu mythique ou mythologique, mais c'est des formes de savoir qui sont quand même transmises. Alors en effet, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'articulation précisément entre le culturel et le politique par rapport à ces... Ça, c'est quelque chose de, à mon avis, de très structurant pour les intellectuels du quartier, c'est qu'à la fois, ils acquièrent des savoirs en partie par l'école et de manière autodidacte, et en même temps, il y a une forme de politisation assez forte, d'engagement. C'est aussi pour ça qu'ils restent dans le quartier, et qu'ils ont, ça m'amène à ta troisième question, qu'ils ont à cœur de transmettre ces savoirs dans l'espace du quartier, donc dans un espace un peu marginal, et du coup, ils transmettent à la fois des savoirs légitimes et légitimes, tout ça un peu de manière combinée. Ils le font, alors en effet, tu as parlé d'éthique, avec la volonté d'améliorer le sort des jeunes des quartiers. Quoi. Ils pensent avoir acquis un certain nombre de connaissances, de savoir-faire qui sont en droit et même en devoir de transmettre aux plus jeunes pour améliorer le sort des habitants de ces quartiers populaires, marginalisés, etc. Et alors en effet, il y a certains qui le font d'un point de vue professionnel. Ils sont rémunérés pour ça, ils sont éducateurs, ils sont, voilà, etc. Aux États-Unis, il y a les équivalents. Et d'autres qui le font de manière totalement bénévole dans le cadre associatif. Mais en effet, je pense que c'est l'axe, à mon avis, important à aller voir pour moi, c'est l'articulation entre le culturel et le politique pour ces intellos de quartier. C'est vraiment un truc fondamental, je pense. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long dans les réponses.
Merci Hakim, on va arrêter là. Je précise quand même que d'autres questions pourront être posées par la suite. Entre midi et deux, on a encore un petit peu de temps pour discuter. Mais vraiment, merci beaucoup pour cette communication passionnante et pour ces terrains. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci.